Donc on passe au pasouk suivant. Yavdu Ha'amim. Alors, je répète, Yitzhak Avinu est en train de donner une bracha et il pense donner la bracha à Esav. La bracha, celui qui entend la bracha, c'est Yaakov. C'est vrai qu'il est déguisé en Esav et qu'il s'est fait passer pour Esav auprès de son père. Mais le Midrash, il ne s'occupe que de ce que Yaakov entend en tant que Yaakov. Alors peut-être que Yaakov, dans certains cas, il va entendre ce qu'on lui dit en tant que Yaakov, mais aussi en tant que Yaakov qui a voulu endosser aussi l'identité d'Esav, que peut-être il y a des situations dans lesquels Yaakov va entendre quelque chose qui lui est adressé à lui, mais comme si ce qui s'adresse à lui s'adresse à un lui qui a voulu aussi être Esav, quelque part. Parce que dans l'idée, se substituer à Esav, ça veut dire qu'on a considéré que Esav n'allait pas jouer le rôle qu'il aurait dû jouer. Mais ce rôle qu'il aurait dû jouer, il doit être joué. Il y a des éléments esaviens, si vous voulez, qui sont nécessaires au fonctionnement du monde. Et si Esav ne les joue, ne les assume pas, il faudra que Yaakov les assume. On a déjà vu qu'il y a des situations dans lesquelles il va falloir faire la guerre ou faire des choses que, a priori, Yaakov aurait préféré ne pas faire, mais qu'il faudra faire, en particulier parce que tu joues le rôle d'Esav aussi. Tu prends tout sur toi. C'est comme, je sais pas, comme un parent qui se retrouve seul et qui doit jouer le rôle des deux parents. Alors, on sait bien qu'il ne peut pas le jouer complètement, mais néanmoins, il va falloir qu'il réfléchisse et que, dans certains cas, il se dise, mais ben, je suis obligé de jouer le rôle du parent qui n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il est parti, ou qui n'est pas là parce qu'il est mort, ou parce que, quoi qu'il en soit, quoi. Pardon, alors le Midrash dit les peuples, ça veut dire les 70 nations. Donc les 70 nations vont te servir. Qu'est-ce que le Midrash veut dire ici? On ne veut pas dire qu'il y a des nations qui vont te servir, non, mais on parle donc ici d'une forme de reconnaissance. Quand est-ce que les 70 nations sont susceptibles de servir Yaakov? C'est à la fin des temps. À la fin des temps, les nations peuvent reconnaître que effectivement Yaakov est ses descendants ont fait le travail qui devait être fait, et du coup, ils vont comprendre, ok, donc les Bnei Israël vont devoir se consacrer entièrement à l'étude de la Torah, etc. Et donc, les nations vont se mettre au service des Bnei Israël, pas dans un esprit pas parce que les Bnei Israël les y obligent, mais parce qu'ils comprendront que c'est leur rôle, c'est la façon dont ils peuvent contribuer à la réussite du projet divin, quelque part. Un peu comme les Bnei Israël vont servir, d'une certaine manière, les Kohanim et les Levim, Au sens, ils vont leur apporter toutes sortes de nourriture que les Kohanim et Levim n'ont pas, dans la mesure où ils n'ont pas de territoire, mais il faudra bien que les autres les entretiennent. Et donc, si les Bnei Israël se consacrent uniquement au spirituel, il faudra, et c'est l'état idéal, quelque sorte, c'est l'état vers lequel on tend, et bien d'après cela, ben, les goïms vont devoir, tous les peuples, pour comprendre que c'est leur intérêt, c'est leur contribution. Ils sont chargés de toute l'intendance pour que les Bnei Israël développent la Torah qui va bénéficier à tout le monde. C'est ça que Yitzhak dit à Yaakov. Il y aura une situation où effectivement toutes les nations vont te servir. Vishtachavu lecha leumim. Alors, leumim, c'est aussi un nom qu'on peut traduire par nation. Leumim, c'est le mot qui est utilisé quand on a annoncé à Rivka qu'elle avait deux peuples, deux nations dans son ventre. On a dit, ou le homme, mi le homme, je n'ai le umim bevitner, il y a deux le umim dans tes entrailles, c'est-à-dire tu portes des jumeaux. Donc là-bas, et ces jumeaux vont donner naissance à des nations. Donc on a le mot âme et on a le mot le homme. C'est pas exactement la même chose. Alors, effectivement, les Amim, c'est les 70 nations, et les nations qui vont s'incliner devant toi, c'est des nations particulières. C'est pas les 70 nations. Le Midrash dit, c'est les fils d'Ishmaël et de Ketura. C'est-à-dire les descendants d'Abraham. Ketura, c'est la deuxième femme d'Abraham. Enfin, la deuxième, la troisième, si on peut parler comme ça. Oui. Il avait Sarah. Sarah a donné Agar à Abraham. Et puis ensuite, Yitzhak, quand il est allé chercher une femme pour son père, il a choisi cette Ketura dont certains disent que c'était Agar. Mais tout le monde n'est pas d'accord. D'accord? Donc c'est ou bien une autre, ou bien Agar. Et donc, on dit, les enfants d'Abraham, c'est eux les Léumim. Et alors, on les énonce ici, les fils de d'Edan, c'est l'Achourim, le Touchim, Léumim. Ce sont les peuples, comme il y en a qui s'appellent Léumim, les proches de Léum, oui, bien sûr, pluriel. Alors, c'est intéressant de voir que il y a ici une autre façon de reconnaître Israël, qui est la façon d'Ishmaël, quoi, des enfants d'Abraham. Donc, on est passé l'ensemble des nations, à deux nations, enfin, à une sorte de nations qui sont issues d'Abraham. Et puis, il y a un troisième groupe. C'est marqué ici, Vishtachavu lecha bnei, excusez-moi, j'ai oublié un, Evegvir leachecha, soit un gibor, soit quelqu'un de plus fort que ton frère, le maître de ton frère, c'est Esav ve Alufav. Alors, premièrement, on voit que Ishmaël et Esav ne sont pas vraiment inclus dans les autres nations. On parle des fameux, on a parlé des 70 nations, mais si on a déjà inclus Esav et Ishmaël, ben, on n'a plus rien à dire. Donc si on les traite à part, c'est qu'ils ne sont pas vraiment inclus. Et la tradition, elle est qu'effectivement, quand on parle des 70 nations, ils sont 70, mais il y en a un qui est le chef, en quelque sorte, et l'autre le sous-chef, si on parle comme ça. Le chef, c'est Esav, et le sous-chef, c'est Ishmaël. Ils sont ceux qui représentent les nations. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a les descendants de Jacob, c'est les Bnei Israël, et puis il y a ceux qui sont descendants d'Abraham et ceux qui sont descendants d'Ésaü. C'est-à-dire, en fait, tous ceux qui sont descendants d'une certaine manière d'Abraham et d'Isaac. Mais qui ont été d'une certaine manière éliminés, mis de côté, ou bien qui ont été éliminés ou qui se sont éliminés. Parce que Ishmaël, il a été mis de côté. Hachem a dit à Abraham, c'est pas lui ton successeur spirituellement, donc ça c'est clair. C'est pas, on, il a pas, il n'était pas prévu d'être le successeur et on lui a enlevé ce statut. Ishmaël n'était jamais dans le coup. Abraham a pensé éventuellement, à un moment donné, comme on l'a déjà dit, mais il n'était pas dans le coup. Par contre, Ésaü, il était un peu dans le coup dans la mesure où ce qui a été dit à Abraham, c'est qu'il Beïsra qui carré le Chazara. Il y aura quelqu'un qui est dans Isaac qui sera ta descendance. Pas tout Yitzhak, mais une partie d'Yitzhak, Be Yitzhak. Donc c'est Yaakov et pas Esav. Alors, les verbes qui sont utilisés ne sont pas les mêmes, évidemment, comme vous voyez. Les peuples, les Shivim, les 70 nations vont servir, effectivement. Les nations qui sont les descendants d'Abraham, elles vont s'incliner devant toi. Elles vont reconnaître ta supériorité. Reconnaître que, exactement comme Ishmaël, qui a laissé passer Yitzhak avant lui, au moment de l'enterrement d'Abraham. Et puis, le rapport avec ton frère, c'est pas, c'est, tu seras son maître. Mais on ne dit pas du tout qu'ils vont l'accepter. Tu seras son maître, mais le maître, il n'est pas toujours accepté. Bon, il est fois, bon, à son corps défendant, il est obligé de le reconnaître, mais il ne l'accepte pas obligatoirement. Et savent, il n'accepte pas obligatoirement Yaakov. La question qu'on peut se poser, c'est quel sera donc le rôle des Bnei Ishmaël ou de Esav? Le service, il est fait par les 70 nations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les uns vont s'incliner, l'autre, ils vont avoir un maître. C'est un peu curieux parce que c'est comme si ces deux nations, Ishmaël et Ésaü, ne vont pas jouer de rôle. Qui joue un rôle? Israël joue le rôle, il va être dit. Les 70 nations les servent. Quel est le rôle de... Les autres vont s'incliner ou bien ils vont subir en quelque sorte. On a un maître. C'est un peu compliqué de se représenter quel rôle est-ce qu'ils vont jouer donc. Ok, donc ça, pour l'instant, c'est une question. Alors la suite est plus compliquée. Dans le passage que c'est marqué, Veishtachavu lecha bnei imecha. Ils se prosterneront devant toi, les enfants de ta mère. Et qui c'est les enfants de la mère de Yaakov? La mère de Yaakov, c'est Rivka. Rivka, elle a eu que deux enfants. Elle a eu Yaakov et Ésaü. Ésaü, on en a déjà parlé. Donc, de qui on parle ici? C'est qui les enfants de ta mère? Et alors, le Midrash dit, Ouléala, nous, Amar, mais si on regarde plus loin dans le texte, beaucoup plus loin, presque à la fin de la Genèse, c'est marqué dans le passouk, Ishtachavu lecha bnei avicha. Se prosterneront devant toi les enfants de ton père. Et son père, c'est Yitzhak. C'est lui qui lui parle en ce moment. C'est lui qui est en train de lui parler. C'est quoi les enfants de ton père? Et c'est quoi la différence entre les enfants de ton père et les enfants de ta mère? Elle a Yaakov a l'idée chez Natal Arbanashim. Yaakov, étant donné qu'il a pris quatre femmes, Léa, Rachel, Léa, Rachel, Zilpa, Oubila, ou Omer, Bene, Avicha. On dit Bene, Avicha. Yitzhak, Natal, Rivka, Amar bene imecha. Là non plus, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. On dit pourquoi on dit bene avicha? Parce que il y a quatre mères. Alors comme donc on est, qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce que les enfants de ces quatre mères ont en commun? Un père. Le père, c'est qui? Yaakov. Il appelle ça Bnei Avicha. Et le fait qu'Yitzhak, il avait qu'une seule femme, alors les enfants de Yitzhak, on peut les appeler les enfants, bon, c'est, on peut dire les enfants de ta mère. Parce que ta mère, c'est aussi la mère des autres enfants, c'est-à-dire des Saves. Alors de quoi on parle ici? Qui est-ce qui va se prosterner? Très compliqué. On n'arrive pas du tout à savoir de quoi on parle. Pardon?
La royauté.
La royauté? Mais Se prosterner devant toi, c'est on se prosternait devant qui? Devant Yitzhak? Devant Yaakov?
C'est dans le 44, verset 8, c'est Yehuda.
Oui.
C'est pas possible de la remonter. Les autres qui reconnaissent Yehuda comme roi, c'est ça.
Oui, mais pourquoi ils disent, c'est marqué que les enfants de ton père se prosterneront et les enfants de ta mère se prosterneront, les enfants de ta mère se prosterneront devant toi, et plus loin on dit les enfants de ton père se prosterneront. Et Yitzhak, il est dit, les enfants de ta mère. Ou est-ce que c'est marqué les enfants de ta mère? Donc ici, c'est dit les enfants de ta mère, et plus bas, on va dire les enfants de ton père. Donc en fait, c'est pas du tout que c'est les enfants du père ou de la mère qui vont se prosterner seulement. C'est que le Midrash, il se demande pourquoi parfois on parle des enfants en disant que les enfants du père, des fois on dit les enfants de la mère. Alors il explique, quand on veut parler d'un ensemble d'enfants qui ont quatre, enfin, qui ont des mères différentes, alors, on va dire c'est les enfants du père, parce que c'est le seul moyen de dire quelque chose qui est valable pour eux. Dans le passouk effectivement, dans le passouk de Yehuda, où on parle de ce que tous les frères et tous leurs descendants vont reconnaître Yehuda comme roi. Alors là-bas, comme ils ont de quatre mères, alors là-bas, on est obligé de dire les enfants de ton père. Mais ici, comme on parle ici d'Yitzhak, qui n'avait qu'une seule femme, donc quand on veut parler les enfants de ta mère, là du coup, c'est un peu compliqué parce que de qui on parle? Les enfants de ta mère, c'est Esav. On a déjà parlé d'Esav. Donc maintenant, on va dire que Esav, lui, bon, après avoir dit que Esav, il a seulement un rapport de maître à sujet, quoi, quelque part, avec Jacob. Après, maintenant, on est en train de dire qu'il va se prosterner aussi. Esav va se prosterner. C'est compliqué. Bon, laissons ça. Que celui qui te maudit soit maudit, que celui qui te bénit soit béni. C'est-à-dire, Orarecha Arur, Uvarchecha Barur. Et plus bas, on va dire, Uvarchecha Barur, Uvarchecha Arur. De nouveau, là, ici, c'est de nouveau un problème de l'ordre des termes. Pourquoi on commence par dire ici, celui qui nous maudit, et ensuite on parle de celui qui te bénit, alors que quand on va parler de Bilam, on va dire celui qui te bénit, et après seulement celui qui te maudit. Pourquoi la Torah n'a pas une règle de dire maudit avant béni ou béni avant maudit, mais au moins que ce soit la règle dans tous les cas. Une fois comme ci, une fois comme ça, il faut expliquer pourquoi. Alors on nous explique pourquoi. Bilam, al-Yedesh haya sonné. Bilam, donc c'est la référence qui dit d'abord Baruch et après Arour. Oui. D'abord béni et après maudit. Alors, Bilaam, qui était un ennemi, il commence par bénir et il finit par maudire. Yitzhak qui aimait, il parle par amour. Alors il dit d'abord klala et après bracha. Donc on compare ici la bracha que Yitzhak donne à Yaakov, à la bracha que Bilam va donner aux descendants de Yaakov. Sauf que Bilam, la bracha qu'il leur donne, c'est une bracha qui est transformée par Hachem. Lui, dans sa tête, il voulait donner une malédiction, et Hachem a fait en sorte que ce qu'il voulait faire sortir sous forme de malédiction a été inversé et c'est sorti sous forme de bénédiction. Donc au début, il bénit, mais pas du tout parce qu'il le voulait. Et à la fin, tout à la fin, après que Balak qui l'a fait venir, ils ont tourné autour du clan d'Israël, ils ont cherché des points de vue à partir desquels on pouvait voir quelque chose qu'on pouvait interpréter négativement contre le clan d'Israël. Ce qui aurait permis de faire entrer une malédiction, ils n'en ont jamais trouvé. Et donc, Balak, il a perdu patience, il a dit, moi, je t'ai payé pour que tu viennes maudire ce peuple d'Israël, et toi, tu le bénis, rentre chez toi. Alors, finalement, Bilaam, il a donné un conseil gratuit. C'est lui qui a donné le conseil, il a dit, le Dieu des Hébreux, il n'aime pas du tout les mauvaises mœurs. Et donc, c'est là qu'il faut taper. Et donc, eux, ils ont très bien compris. Ils ont prostitué leur princesse. Ils ont envoyé dans la guerre contre Israël. Et les princesses, elles ont séduit des jeunes gens et elles ont dit, quand ils étaient, quand à ce moment-là, les jeunes gens ont dit, OK, alors accepte d'avoir des rapports avec moi. Il a dit, j'accepte tout de suite, mais il y a une petite procédure à faire, il faut que tu te prosternes devant ma... J'ai une petite idole là. Et donc, ils se sont prosternés devant ces idoles. Et il y a eu une maguefa, il y a eu 24 000 morts, je veux dire. Et donc ça c'est la klala que Bilam a donnée au Bnei Israël. Il a donné un conseil qui a permis de faire tomber les Bnei Israël, si on peut parler comme ça. Non, je me réfugie là.
Oui. Oui.
C'est la pluie. Moi, ça me mouille pas.
Oui.
Mais c'est juste pour vérifier que vous.
Oui. 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 Oui.
Non, pas encore.
Oui. Dimanche en plus, ça n'a pas pu.
Parce qu'on s'est avancé. Il a plu?
Oui, dimanche matin, il a plus, ça n'a pas pu.
Je sais pas, vous n'avez pas vu peut-être.
J'ai
Parce que.
regardé justement pour préparer.
Tant mieux.
Voilà, si ça pouvait, avec la donc ça aurait déjà coulé.
Oui, ça pourrait avoir déjà coulé. Alors, cette idée que selon que on bénit ou on maudit le clan d'Israël, on se trouve soi-même béni ou maudit. C'est comme si le clan d'Israël était la référence. Ça a déjà été donné à Avraham Avinu. Hachem avait déjà dit à Avraham Avinu, celui qui va te bénir sera béni, celui qui va te maudire sera maudit. Donc c'est répété ici par Yitzhak à Yaakov. De certaine manière, c'est une façon pour Yitzhak d'installer Yaakov comme le véritable descendant d'Abraham.
Pourquoi il y a Isaac aimait Jacob il commença par maudire et finit par bénir.
Oui, parce que en vérité, il aimait Yaakov. C'est pas que Yitzhak, quand il a parlé, le problème, c'est comme ça. C'est que Yitzhak, il a appelé Esav pour lui donner la bracha. Appeler Esav, c'est comme si on maudit, pour le bénir, comme si on maudissait Yaakov, puisqu'il n'appelle pas Yaakov. Donc on pourrait penser que dans cette démarche-là, où il est en train de maudire, enfin, pas de maudire directement, mais il fait quelque chose qui peut être perçu comme une malédiction
C'est bon.
par Yitzhak.
C'est bon. Bon.
Oui, mais de facto, comme de facto reçu par Yitzhak, quand Yitzhak voit ce qui se passe, il voit que, alors c'est pour ça qu'on nous dit, surtout, il ne faut pas se tromper. C'est normal qu'il l'appelle, et c'est pas, ça veut pas dire qu'il haïssait Yaakov, il aimait Yaakov aussi. Mais bien qu'il l'aime, il a quand même commencé par faire quelque chose que Yaakov pouvait interpréter comme une malédiction. Mais finalement, en tout cas, il y a eu une bénédiction effective sur Yaakov, puisqu'il a dit Gam Baruch Yeh. D'accord? Quand il s'est aperçu, quand Yitzhak s'est aperçu qu'il s'était trompé, il a validé la bénédiction. Parce que la bénédiction que Yaakov avait eue en trompant Yitzhak, cette bénédiction, elle vaut rien. C'est une bénédiction qui a été donnée à Essav. Elle est arrivée chez toi, mais elle a été donnée à Essav. Elle vaut rien. Donc, il a fallu que Yitzhak dise à la fin, il dit, non, mais je valide cette bénédiction que je t'ai donnée par erreur. Maintenant, je comprends tu devais la recevoir. Elle est pour toi, cette bénédiction.
L'éventualité que Jacob il aurait pu interpréter ça de façon négative. Donc, si la chose normale, c'est que ça pouvoir recevoir la barra.
Non, mais là, il ne le savait pas. Lui, Yaakov, il ne sait pas que le projet de Yitzhak, c'est que les deux travaillent ensemble.
Oui, mais là, c'est quand même la barra du Béra.
Alors, même, d'accord. Mais si c'est la bracha du Bechor, la vérité, c'est que c'est Yaakov le Bechor. Il a acheté la Bechora. Donc, en réalité, si c'est à ce titre-là,
Oui, mais il le
mais
sait.
Yitzhak le sait pas. Yitzhak le sait pas. Ouais, ok, mais ça apparaît comme cette bénédiction à lui plutôt que pas à l'autre. Si vous voulez, c'est un peu comme quand on dit que Léa était la femme haït par rapport à Rachel, c'est pas qu'il haïssait Léa, c'est que l'amour qu'il montrait ostensiblement pour Rachel, Léa, elle le percevait comme quelque chose qui est le contraire pour elle, quoi.
Là, c'est compréhensible.
Là aussi, c'est compréhensible. Il voit qu'il y a une bracha qui est donnée à son frère et pas à lui. C'est son jumeau. Et en plus, si c'est au-dessus de la Bechora, il sait que à la limite c'est une erreur, il lui a pas demandé son avis.
Non, mais la
Le
chose
problème,
normale,
c'est qu'on peut pas parler avec Yitzhak, pas quelqu'un avec lequel on peut parler. Yitzhak, il a vécu quelque chose de tellement terrible dans la Hakeda que personne ne peut lui parler. Rivka ne lui parle pas non plus. C'est curieux parce que ces deux chapitres, les deux paragraphes qu'on a maintenant, le Midrash, il s'occupe de nous dire, surtout vous trompez pas. C'est-à-dire, ne vous trompez pas, il faut pas interpréter le verset comme, ici on a dit, Bene, Imecha, ici, Bnei Avicha. On te dit non, c'est simplement, c'est pas que, on parle ici d'amour et de la même personne. On sait pas qui. Non, ça dépend qui parle. Et ici, on nous dit aussi, comme pourquoi on utilise Avicha et Imecha, ben, c'est parce qu'on peut pas parler de ta mère. Parce que il y a quatre, si on parlait de toutes les descendants, il y a quatre mères, il n'y en a pas une seule. Et maintenant, le Midrash, il redescend au niveau de Monsieur Tout-le-Monde. Areshaim, donc Rabbi Tzrak Berabriya Amar, Areshaim alide shetrilatan shalva, vesofan isurim, potrim bebracha vechotmim beklala. Les Reshaim, étant donné qu'au départ, ils sont sereins, ils ont pas de soucis, ils ont pas de problème. Alors ils commencent par parler de bracha. Mais finalement, ils prennent conscience de de certaines réalités et ils finissent par une klala. Les tzadikim, leur commencement, c'est issourim. Ça commence par des souffrances. Mais Sofan, Shalva, à la fin, ils seront sereins, ils seront en paix. Alors eux, ils parlent de Klala d'abord et ils le ferment par la bracha.
Commence par
Ça veut dire que la situation dans laquelle ils sont est une situation qui pousserait les gens à se révolter contre Hachem, à maudire le jour de ma naissance, etc. comme
envers HM.
alors, en soi, c'est quelque chose d'intéressant de savoir pourquoi les tzadikim commence par Issourim. De façon générale, on peut se demander, par exemple, pourquoi la naissance du clan Israël commence par un exil et un esclavage. C'est même pas la naissance, c'est les prémices, c'est la conception quasiment. Le clan Israël a été quasiment conçu en Égypte, dans des conditions de souffrance, d'esclavage. Si je dis que la naissance, c'est la sortie d'Égypte, donc ce qui s'est passé avant, c'est la grossesse et la conception. Pourquoi ça commence comme ça? Pourquoi dans le processus qui est décrit dans Maaseh Bereshit, pourquoi il y a Rocher d'abord et le Or, il vient seulement plus tard? Le rocher, il n'est même pas présenté comme étant créé. D'accord? Qu'est-ce qui était? La situation était rocher al pnetom. C'est pas marqué vaivra et rocher. Bon. Il y avait du rocher. Et quand Hachem a créé la lumière, alors on avait cette opposition entre or et rocher. Alors c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a, et le or, il l'appelait yom, et le rocher, il l'appelait laila, etc. Mais le rocher, il n'a pas été créé, il était là. Donc il y a du rocher avant qu'il y ait du or, lumière. Alors le fait qu'il y ait un Olam Haba dans lequel un Olam Hazeh dans lequel il y a des épreuves, etc., avant Olamaba, on comprend, là, c'est comme il s'agit d'acquérir des mérites pour pouvoir accéder à Olamaba, on comprend qu'il faut faut travailler pour avoir un salaire. Donc, le travail est toujours avant le salaire, évidemment. On n'a pas, a priori, on n'a pas le salaire avant d'avoir travaillé. OK, pour là, ça se comprend. Mais pourquoi est-ce qu'il faut un esclavage avant la naissance, ou disons que la naissance a lieu dans un cadre d'esclavage? Compliqué. Alors, on a l'habitude de dire que s'il n'y avait pas de recherche, on n'apprécierait pas la lumière. S'il y avait eu tout de suite que de la lumière, on voit, il n'y a rien. S'il n'y a pas de recherche, on distingue même pas la lumière. Mais ça va pas très loin parce que dans ce cas-là, on a pu comprendre que Hachem crée le recherche et ensuite il crée la lumière. Mais là, le recherche n'est pas présenté du tout comme faisant, étant créé. Donc, il n'y a pas de Vayomer. Hachem n'a pas dit Yehi Rocher. La situation était Rocher al pnei Tehom.
Qu'est-ce que ce serait la coupe et la victime au commencement? C'est la coupe dans l'effort que vous sur le bimou, par exemple, ça veut dire.
Non, Sadikim. Alors, ça dépend justement qu'est-ce qu'on va appeler les, c'est marqué Issourim, c'est des épreuves. C'est des souffrances sous forme d'épreuves. Alors, si on traduit Issourim comme épreuve, alors, on peut dire ici que la qualité, la qualité de tzaddik, elle s'acquiert par des épreuves. C'est comme ça, on ne peut pas être tzaddik sans avoir été éprouvé. Pour être rachat, on peut l'être sans avoir. Il n'y a pas une qualification pour être rachat. On est directement qualifié. Donc, ce serait ça c'est Issourim. Bon, mais dans ce cas-là, si on dit ça, c'est assez, bon, c'est presque trivial. Je veux dire que pour être tzaddik, il faut avoir passé les épreuves. Est-ce qu'on aurait pu penser autrement, je veux dire. Une qualification, elle se fait seulement par le biais d'épreuves.
Mais il n'y a pas des tzadikim, par exemple, très jeunes, et qui n'ont pas eu particulièrement
Et c'est des gens qui ont pas fait de faute, mais c'est pas des tzadikim. Le tzadik, celui qui est considéré comme le tzadik, c'est Yosef HaTzadik. Et Yosef HaTzadik, qu'est-ce qui fait qu'il est tzadik? C'est qu'il a résisté à Madame Potiphar. Donc il a eu une épreuve et considère qu'il a réussi. OK. Donc maintenant, on en a pratiquement fini avec cette histoire de cette substitution où Yaakov se fait passer pour Esav. Mais l'histoire, elle continue. Il ne faut pas oublier que Yitzhak, il a envoyé Esav chasser pour ramener du gibier. Et que Essav doit ramener ce gibier, il doit le préparer de la bonne manière, de la manière que son père aime, et il va lui apporter à manger. Alors le pasouk dit, Vayhi Kasher Kila Yitzhak. Quand Yitzhak a eu terminé de bénir Yaakov, alors, ce qui s'est passé, c'est que arrive Esav. Amar Rav Aibo. On dit, Pelono chez Lavinu, Yitzhak me foula Shaya. Zebamikan. Et les rabbanans disent non, c'est Kemin Astropomta Adlatotayu Nichpalot Lachorehem Amadlo Yaakov Acharadelet Ad She Nichnasesav Viatsalo. Ensuite il est sorti. Daudirtiv. Ach, Yatso Yatsa Yaakov, Nireche Ke Yotse, Ve'eno Yotse. Donc, la répétition de Yatso Yatsa, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment tout de suite sorti. On avait l'impression qu'il sortait, mais il n'est pas vraiment sorti. Parce que dans la deuxième explication, il dit que, en fait, le couloir de chez Yitzhak, le vestibule, le couloir, était ouvert des deux côtés, à ses Rabbi Aïbou, mais les Rabbanan, ils disent, c'était comme une charnière, parce que les portes se repliaient en arrière. Et Yaakov, quand il a commencé à sortir, après, les portes se repliaient, donc il était dans la porte, en quelque sorte. Et ça va être entré, et à ce moment-là, lui, il est sorti.
Ah, si vous pouvez traduire à chaque fois, ce serait pas mal. Ouais.
Oui, mais c'est ce que je fais là. Je traduis.
Là, oui.
Alors, Yaakov, il sort au moment où est sa ventre. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'ils ne se sont pas croisés. Non, j'ai l'impression que quand on était dans la porte, les portes, elles s'est basculées en arrière, ou je ne sais pas quoi. Non, ça se pliait. Ça l'a caché. Il est entré et après, il est sorti. Et Jacob est sorti après. Bon, il s'agit d'expliquer pourquoi ils ne se sont pas croisés. J'avais une autre question à laquelle je ne sais pas vraiment répondre, mais on a l'impression qu'ils se sont croisés à la sortie, mais Yaakov, il avait un manteau. C'était le manteau d'Ésav. Et Ésav, il a sûrement mis ce manteau quand il est venu servir son père. C'était le manteau avec lequel il servait son père. Donc il faut dire que Yaakov a eu le temps de sortir, de remettre le manteau sur son crochet. Ou bien le crochet était tout prêt, je veux dire, je sais pas. Et avant de et avant que ça arrive et qu'il s'habille pour voir son père, puisque lui il avait l'habitude de le servir comme on l'a vu avec des vêtements royaux. Donc quand il a mis évidemment ce fameux vêtement qui sentait le Gan Eden, en tout cas quand il était porté par Yaakov. Il a fallu que Jacob l'enlève et savent le remettre. Bien, ici, il n'y a pas de ça. En tout cas, ils ne se sont pas croisés. C'était important. Parce que sinon, ils se seraient. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Quelque part. Ça veut dire que le timing était très juste. Hachem a fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Alors, Yaakov s'en va et Esav arrive. On est dans le récit de la sortie de Yaakov. D'accord? On a commencé dans le verset à dire Vayé kasher kila Yitzhak, et ce fut quand Yitzhak a eu terminé donc de bénir Yaakov. Yaakov est sorti. Et puis là, tout de suite, on nous dit Vesav achiv ba mitsido. Et Esav arrive de son côté, en fait. Il vient mitsido de sa chasse. Il est allé chasser comme son père lui a demandé. Donc lui, il arrive. Mitsido, ça veut dire plutôt. Et le Midrash dit, il est revenu de la chasse, Mezouyan, Latsoud Nafsho. Il est venu armé pour Latsoud Nafsho, c'est-à-dire pour chasser son père, quoi, pour continuer de tromper son père. Kema d'Atamar va cher l'Otsada. Comme le Passouk qui dit justement, qui utilise le mot Otsada, qui veut dire chasser, tromper. C'est une ruse, quoi, quelque part. Donc c'est très curieux, parce que ici on est, c'est important par rapport à la suite. Ici on dit très clairement que quand il revient armé, c'est pour continuer de traiter son père comme il l'a traité jusqu'à présent, en le trompant. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas. Ils n'ont pas traduit qu'il était armé, pourquoi il était armé. Dans le texte original, là, que j'ai, moi, c'est il était là-dessous de Nafcho. Donc, on a l'impression, ici en tout cas de cette partie, que Esav est toujours dans la même optique, même au moment de cette bracha, ça va être important pour après, comme je vous ai dit, il est toujours en train de tromper son père, c'est-à-dire il va se présenter comme il veut faire croire à son père qu'il aide quelqu'un de bien, etc. Il le trompe puisque son père voit pas très clairement, ou en tout cas il croit qu'il le trompe. Peut-être que Yitzhak l'a déjà compris, mais en tout cas il vient armé, donc et puis non, venir armé, c'est il est armé pour tromper, ça veut dire ça que le verbe
Une arme.
Non, non, les armes, c'est pas des armes au sens de. Il n'est pas venu avec son arc et ses flèches. Il a fait de la cuisine avant d'arriver, n'oubliez pas. Il a fallu cuire le gibier. Et alors, moi j'ai la version qu'il présente là dans le numéro 4, édition de l'édition de Vilna. Le Midrash continue et il dit, il revient sur ce dont on avait parlé en dernier, sur le problème de la bénédiction. Celui qui va te bénir sera béni, celui qui va te maudire sera... Et il dit, Oved kochavim amvarechet et Hachem. Oni machav amen. Si un idolâtre fait une bracha dans laquelle il dit Bo chata Hashem, alors on dit amen. On dit amen. S'il dit Baruch atah Bashem, il faut pas répondre amen, parce que Bashem, ça a une connotation idolâtre. Amar Rabbi Tanhuma, im beracha oved kochavim echad, ane acharav, amen. Rabbi Tanhuma, il dit, si un goy te bénit, réponds amen. Pourquoi est-ce qu'il faut le répondre amen? D'où est-ce que je sais? C'est marqué. Baruch tiyeh mikol ha'amim. Tu seras béni par tous les peuples. Donc c'est normal qu'un goy te donne une bénédiction, dit Amen. Oved kochavim echad, paga berabbi Ishmael et Berchot. Il y a un idolâtre qui a croisé Rabbi Ishmael et il l'a béni. Il lui a donné une bracha. Alors Rabbi Ishmael lui a dit, Kvar milatcha amura. Littéralement, ça veut dire, on a déjà dit ce qu'il fallait en penser de ce que tu dis. C'est le verset qui dit effectivement que celui qui te bénit sera béni. Donc c'est une façon de dire, ok, tu m'as béni, c'est bien, tu seras béni. Et puis ensuite, il y a un autre idolâtre qui le croise et qui maudit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael donne la même réponse. On a déjà traité ton problème. Marqué, celui qui te maudit sera maudit. C'est une façon de dire, sois maudit. Oui.
Je croyais que c'était une évacuation du préjudice.
C'est aussi comme ça, mais c'est pas obligatoirement. Non, non,
C'est
ben,
écrit dans le. Dans...
non, non, ça arrive, ça, c'est aussi de façon générale, la façon dont Hachem se conduit avec nous dépend de la façon dont nous le conduisons avec lui. Mida, Kenegen Mida. Alors, les gens lui ont dit, les élèves, probablement, ont dit à Rabbi Ishmael, Kemad Amrat Leden, Amrat Leden. Tu as répondu la même chose à celui qui t'a maudit qu'à celui qui t'a béni? Et il leur a dit, oui, dans le passage c'est marqué, Mevanchecha Baruch, Veorerecha Arur. Donc ce que je leur ai dit, c'est que le passage a déjà traité votre parole. Si tu m'as béni, tu seras béni. Tu m'as maudit, tu seras maudit. Et le problème que j'avais, mais qui effectivement n'existe pas si ce morceau-là ne figure pas dans le Midrash, comme dans l'édition de Verdier, Le problème, c'est quoi cette histoire d'avoir mis que Essav arrive en plein milieu de cette discussion, de ce traitement des brachot, celui qui te bénit. Qu'est-ce que ça fait ici, là? Alors, j'ai pensé que lui, en fait, lui, il voulait tromper son père. Alors c'est lui qui a été trompé. C'est le même principe que tu veux me maudire, alors sans doute. Et c'est ça que le Midrash a voulu dire. Comment ça se fait que Esav s'est trompé? C'est pour ça que c'était important que le verset nous dise qu'il est revenu armé pour tromper, parce que par la suite, enfin, je peux déjà vous donner le scoop en question. Comme vous savez, quand Esav va apprendre que Yaakov l'avait précédé, que c'est lui qui avait reçu la bracha, c'est marqué que Esav a poussé un cri de douleur énorme. C'est marqué dans Chazal que nous, les descendants de Yaakov, qui est à la source, à la cause de ce cri de douleur de Ésav, on va le payer. Et on l'a payé. On l'a payé parce que ce cri-là, il correspond au cri de Mordechai. Quand Mordechai a entendu qu'il y avait la solution finale en Perse, on allait tuer tous les Juifs le même jour, Mordechai a poussé un cri de douleur. C'est le prix qu'on a dû. Ça veut dire cette douleur d'entendre qu'il y a un tel projet, même si en fait le projet finalement il va pas se réaliser, etc. Mais d'avoir entendu qu'il y avait un tel projet, même si c'est encore rien passé. C'est la même chose. On a quand même causé à Essav une douleur gigantesque. Alors, le problème, enfin, le problème, c'est que si on considère que Essav était venu pour tromper son père, ce cri, il n'était pas c'était pas sincère. Ça fait partie du cinéma. Si en vérité il se fiche pas mal de la bracha de son père, pourquoi il souffre? Pourquoi il crie la Torah dit que c'est un cri de douleur. S'il a un cri de douleur, c'est que, à ce moment-là, en tout cas, il était sincère. À ce moment-là, quoi qu'il ait pensé de son père, etc., mais à ce moment-là, une bracha de son père, non, il y tenait. Là, il y tient. Et quoi qu'il pense de son père, quoi qu'il pense des valeurs de son père, quoi que il se conduise, etc., d'une façon qui ne correspond pas du tout aux enseignements de son père, mais une bracha de son père, il sait quand même qui est son père. Il sait que son père, c'est un énorme bonhomme, et une bracha de son père, c'est un truc qu'on ne crache pas dessus. Mais si tu dis que il est entièrement dans le moment où il est en train de le tromper, c'est difficile d'entendre que là, brusquement, il était là pour le tromper. Et le cri, c'est quoi? C'est pas un cri de douleur à cause de la bénédiction. C'est un cri, ah, mon truc a pas marché, quoi. Et donc, pour ça, il n'y a pas de raison qu'on paye.
Mais d'après vous, Rabbi, c'est purement mercantile de la part de Essa, ou il y a de l'amour quand même là-dedans?
Non, justement, je pense que si le cri, si nous avons dû payer pour cette souffrance imposée à Essav, c'est qu'Essav était sincère.
Ben
Parce que
oui,
si
sinon ça n'a
c'était
pas
du
de
cinéma, il
sens.
n'y a pas de raison qu'on ait besoin de payer pour ça.
Mais alors on peut s'interroger sur l'amour de cet amour de Essaf pour son père, parce que si on reprend les
Non, mais c'est pas un
propos.
amour. C'est pas un amour pour son père. Mais c'est une conscience qu'une bénédiction de son père, d'ailleurs, on vous pouvait dire que, en vérité, quand il trompe son père, c'est, il veut pas affronter son père. Il aurait pu lui dire à son père, écoute-moi, ton enseignement, ça m'intéresse pas, je préfère aller jouir de prendre, de tuer qui je veux, de prendre la femme de qui je veux, etc. Et bon, non, il l'assume pas. À son père, à l'égard de son père, il se présente comme quelqu'un que mon père se lève, etc. C'est comme ça qu'il lui parle. Il met des vêtements royaux pour servir son père. Ça fait partie d'une part du cinéma, mais ça veut quand même dire que il ne veut pas apparaître tel qu'il est vraiment aux yeux de son père. Et une bracha, c'est important. Alors il va le tromper pour que son père croie, continue de penser qu'il est quelqu'un de bien. Il sait pas. Est-ce que Yitzhak est dupe ou pas? Bon, ça, il n'en sait rien. Mais en tout cas, lui, il fait le travail. Et donc, il est sincèrement désolé. Il souffre effectivement de ne pas avoir eu cette bénédiction. La preuve, c'est qu'on doit payer. Bon, il n'y a pas de raison qu'on paye si c'est pas sincère. Donc, je pense que si on dit que il est venu armé, je crois que ça veut dire que il faut admettre qu'on peut avoir chez la même personne, presque en même temps, une cruauté, une façon de tenir pour, en tout cas pas foncer, pas très important, et en même temps vouloir absolument la bracha, quelque part. Alors c'est des choses qui peuvent cohabiter. Il y a eu des gens qui ont assassiné de sang-froid des enfants, des femmes, des enfants torturés, etc., qui sont rentrés chez eux, ils se sont pris un bon vin, un verre de vin, et ils ont écouté une musique divine que ce soit Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms. Bach, tu vois. Autre chose. Les gens sont capables de faire ça. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a une capacité chez l'être humain, en fait, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître ça. Tous les gens qui disent que ce soit Shoah, que ce soit le 7 octobre, etc., on dit, ah, c'était des bêtes sauvages. Non, les bêtes sauvages, elles se conduisent pas comme ça. Ce sont des hommes. Les êtres humains sont capables de se conduire de cette manière-là.
Mais encore une fois, Rabbi, pour revenir là pourquoi nous serions redevables et nous devrions souffrir de ce cri de pseudo-douleur de
Non, non, c'est pas
Ésaü?
pseudo. C'est pas
Oui,
pseudo.
alors enlever pseudo, de ce cri de douleur de Ésaü, en fait, parce qu'il constate que son intention de passer pour un bon fils a été détruite avec la bracha que Yitzhak a donnée à son fils, en fait. Puisqu'ils veulent tromper, ils veulent tromper sur son véritable, sur sa véritable personnalité. Et c'est peut-être ce cri de douleur vient peut-être du fait que, eh bien, ça tombe à l'eau.
Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'aurais dit facilement comme vous, mais si on dit qu'on a payé, ça veut dire qu'il était sincère, c'est pas possible autrement. Mais ça veut aussi dire qu'on peut avoir dans la même personne et presque dans des instants complètement voisins, on peut avoir des comportements complètement contradictoires. C'est ça l'être humain, je crois. Et ça, c'est une chose très importante. Peut-être, c'était ça la grande marloquette, Hannah Arendt et les autres sur la banalité du mal. Bon, penser que
Mais j'avoue que pour y avoir réfléchi et pensé, l'image que vous avez donnée de l'assassin nazi qui rentre chez lui tranquille et qui retrouve sa famille et qui va écouter un concerto de Mozart, là, c'est un trou pour moi, je ne comprends pas du tout. Là,
Non, mais je
c'est
dis pas que je
vraiment.
comprends. Je dis que c'est comme ça.
Oui, mais je ne comprends pas. C'est comme ça, voilà. A
C'est ça
priori.
l'être humain. L'être humain, il a cette capacité de s'élever. Mais ça, c'est le principe général de tout ce qu'Hachem a fait. Si Hachem a fait qu'on peut s'élever très haut, alors on peut tomber très bas. Et le chidouche, c'est que les deux choses peuvent être quasiment non seulement dans la même personne, même dans la même journée d'une personne. Bien sûr que on n'arrive pas à le comprendre. C'est pour ça qu'on essaye. On veut pas ça. C'est pour ça qu'on va dire non, c'est des bêtes sauvages, etc. Mais les bêtes sauvages n'ont jamais fait des trucs pareils. Il n'y a pas de cruauté chez la bête. Si un lion tue une antilope, c'est parce qu'il a faim. Il faut bien qu'il mange. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand le bourreau, il n'a pas fait. C'est vrai qu'on parle le loup et l'agneau qui vont paître, mais c'est des images. Ça veut dire qu'il ne sera plus un loup et l'agneau ne sera plus un agneau. Si le loup peut. On donne un exemple. On dit des. Un exemple qui est donné sur le clan Israël avec au milieu de toutes les nations il est comparé à un agneau et les nations sont des loups qui lui bouffent la laine sur le dos mais qui peuvent pas le Hachem fait en sorte qu'ils peuvent pas quand même le tuer. A priori ils peuvent. Hachem fait en sorte que ça il peut pas le faire. L'autre exemple était celui l'exemple du chasseur qui a Il a un oiseau dans la main, il n'a qu'à fermer la main, et l'oiseau est mort, mais il ne peut pas fermer la main. Il est dans sa main, mais il ne peut pas fermer la main. C'est ça la gvoura d'Hachem. Okay. Ce n'est pas le nombre de divisions. La question de Staline, combien de divisions? C'est Staline. C'est très difficile à comprendre. Et il me semble que c'est écrit là. Peut-être que je me trompe.
Parmi ceux qui par rapport à l'exemple que vous donnez, la culture, ça ne protège pas l'animal.
Un exemple, c'est ça. C'est l'Allemagne nazie, c'est l'Allemagne qui était la nation la plus civilisée à l'époque. C'est la philosophie, le développement des sciences, etc. C'était l'Allemagne, avant, dans les années 30. Ok, bon, c'est pas. Alors, Vayas Gamhu Matamim, lui aussi. Il a cuisiné des plats de très bons plats.
Aussi.
Gamhouk, parce que Yaakov aussi, il s'est pas cuisiné directement, mais il est venu avec des très bons plats. Là-dessus, le Midrash ramène un passouk qui a l'air très étrange. C'est un passouk dans Michelet. que eux ont traduit en disant que l'araignée saisit avec les mains. Bon, c'est pas un passouk qu'on peut facilement expliquer, mais la dracha sur ce passouk. Amar Rav Chama bar Chanina, Be'ezu zchout asmamit metapeset. Alors d'abord, il faut savoir que, bon, quand on parle d'araignée, en vérité, on parle du tissu que l'araignée est capable de tisser, donc sa toile. C'est une image de l'Empire romain, qui a étendu sa domination sur le monde. Et donc la question c'est, par quel mérite est-ce que Rome a pu s'étendre de cette manière-là? Quel est le mérite? Alors notre Midrash dit, Bisrut Otam Ayadaim. Vayas gamru matamim. C'est par le mérite de ses mains. Et ça va préparer, avec ses mains, il a préparé le repas pour son père. Donc ça lui a acquis un mérite. Et ce mérite, c'est lui qui a fait que les descendants d'Ésav, c'est-à-dire Rome, va pouvoir s'étendre, il va pouvoir, comme on a dit, que cette araignée, en réalité, elle saisit avec ses mains, ça veut dire, une façon de dire, l'Empire romain, il a pu s'étendre. La puce tisser sa toile ont été grâce aux mains d'Esav. Les mains d'Esav, ça joue un rôle fondamental. L'action d'Esav.
Qu'est-ce que ça veut dire enfin, je comprends comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire c'est dû au mérite des sables. Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est transmis
Oui, ça veut dire.
des qualités, pas des sables.
Par exemple, mettez-vous dans l'esprit de ce que j'ai essayé de dire sur Yitzhak. Yitzhak, il s'est dit, mon descendant, c'est une paire de jumeaux. Donc, d'une certaine manière, c'est par eux que ça doit passer, la suite. OK. Ces deux jumeaux, ils ont des caractéristiques complètement différentes. Par conséquent, ils vont devoir travailler ensemble, chacun développant ce pourquoi il est particulièrement doué. Akol kol Yaakov, Yadaim yedei Esav. Et donc, Yitzhak Avinu, il pense que le développement du clan Israël, après lui, il va se faire sur les deux plans parallèles des Yadaïm des Sav et du col, c'est-à-dire de l'étude de Yaakov. Donc, ces Yadaïm des Sav, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais puisque c'est positif, ça peut être aussi bien négatif, avec la même amplitude. De même que le col Yaakov, quand il a investi dans la Torah, il a une puissance énorme. Il y a aussi, quand il s'investit dans autre chose, en particulier dans le Lashon Hara ou des choses comme ça a aussi une importance fabuleuse. Donc ici, quand Esav utilise ses mains pour préparer la nourriture de son père, c'est du bon usage des mains d'Esav. Et parce qu'il y a eu ce bon usage des mains des Saves, ben, cet usage des mains des Saves a été super validé. Il a pris une importance gigantesque puisqu'il a fourni la nourriture à Yitzhak. Et donc, il est la source de la puissance de l'Empire romain. Mais ça veut aussi dire qu'en réalité, pourquoi c'est positif l'Empire romain? Parce que nous, à Rosh Hashanah et Kippour, on prie pour ça. On prie V'yasu Chulam Aguda Echat Lasot Retzon Kha B'Lev Shalem. On prie pour qu'il y ait une unité. L'unité de l'Empire romain, si ça avait été utilisé pour le bien, ce serait fabuleux. Ils ont déjà fait tout un travail de regroupement d'une partie de l'humanité. De même, le travail qu'Alexandre le Grand avait fait, aussi, tout ça, ce sont des choses qui, en elles-mêmes, pourraient être extrêmement puissantes et positives. Bon, c'est dans l'Empire romain, il a quand même permis, dans le négatif, mais il a quand même permis l'expansion du christianisme. Bon, si les Romains n'avaient pas, si Constantin s'était pas converti, il serait resté une petite secte dans son coin, le christianisme. C'est seulement parce que c'est devenu la religion d'État de l'Empire romain. Ça qui lui a donné ce départ fabuleux de cette puissance gigantesque. Ensuite, là, quand c'est devenu le Saint-Empire romain germanique et tout ça, le christianisme, il a surfé là-dessus. Donc, c'est ça qu'on dit ici. Et donc, ça veut dire aujourd'hui où l'Empire romain, pour nous, ici dans l'époque du Midrash, l'Empire romain, c'est un désastre pour nous, quelque part, c'est un désastre causé par les mains de Esav. Comment il peut y avoir un désastre, si vous voulez, dans la mesure où nous sommes le peuple d'Hachem? Comment est-ce que, de la même manière qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse détruire le Beth Amikdash, qui est la résidence d'Hachem, question à laquelle on répond en disant que ce qu'ils ont détruit, c'est une coquille vide, parce que les Bnei Israël avaient déjà détruit la partie vivante dans le Beth Amikdash d'en haut, par leur conduite, et donc c'était une coquille vide, alors ok. Donc, comment est-ce qu'on peut détruire le clan Israël, qui est le peuple d'Hachem? On peut le détruire parce que les Yadaim des Saves peuvent le détruire. Yadaim des Saves, c'est une force à peu près de la même puissance que le col de Yaakov. Kol Yaakov, c'est dans le positif, l'autre c'est dans le négatif. C'est pour ça qu'on dit, ils peuvent jamais être tous les deux en haut, ni le tous les deux en bas, mais quand il y en a un qui est en haut, c'est que l'autre est en bas. Parce que c'est pas possible autrement. Puisque Essa va refuser de travailler avec eux. Donc ça veut dire, ensemble, ils seront pas. C'est marqué. Donc, ça a été annoncé à Rivka que ça se passera comme ça. Voilà, ça va être là.
Merci, Rab.
Merci, Rabbi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci, Rab. Bonne soirée.
Bonsoir. Merci, Rab.